C'est bon. Donc, bonjour Philippe Marceroux. Donc, je vais commencer par vous demander de vous présenter, s'il vous plaît, et de nous expliquer quel a été votre parcours avant d'entrer à l'ENSIB.
Bonjour, je suis Philippe Marceroux, je suis actuellement directeur de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. Mon parcours avant l'ENSIB a finalement été extrêmement classique et en même temps un peu singulier, mais il est singulier et partagé par les 15 élèves, anciens élèves de l'École nationale des chartes qui se sont trouvés être adjoints à la première promotion de l'ENSIB et donc au DCB1. Donc mon parcours avant l'ENSIB est absolument linéaire. Baccalauréat dans un lycée du sud-ouest de la France, Mazamet exactement. Préparation à l'école des chartes à Toulouse. Réussite au concours de l'école des chartes en 88. Sortie de l'école des chartes en 92. Entrée à l'ENSIB par le concours réservé chartiste en 92. Et sortie de l'ENSIB en 93. Après avoir rejoint cette première promotion qui était composée d'une part des lauréats du concours externe, d'autre part des lauréats du concours interne, et par raccro, on y reviendra peut-être, des élèves de l'ENSIB, des élèves de l'école des chartes, pardon.
D'accord. Et alors pourquoi avoir choisi le métier de conservateur des bibliothèques ?
Pour n'avoir pas pu être archiviste, au-delà de la boutade, c'est presque ça. Il se trouve que dans le parcours d'études que j'ai pu avoir, il y a eu un certain nombre d'éléments qui m'ont déterminé à prendre le contre-pied de ce que j'avais initié, de ce que j'avais initialement voulu faire. De mon côté, il était assez clair que au moment de ma terminale, j'irai dans une préparation à une grande école. J'aurais aussi bien aimé, mais je pense qu'il fallait plus de talent que je ne pouvais en avoir, passer le concours de l'école normale supérieure et enseigner l'espagnol, pour le dire de manière simple. Un peu par opportunité et par nécessité, va-t-on dire, j'ai donc plutôt choisi l'école des chartes dans des domaines qui m'intéressaient et qui étaient proches, qui étaient ceux des langues, de l'histoire, on va dire des humanités pour aller vite. Je ne le formalisais pas comme ça à l'époque, bien entendu. Alors, déjà, premier contre-pied. Deuxième contre-pied, je suis rentré fermement à l'école des chartes avec l'idée d'être médiéviste et de faire du latin. Mm-hmm. Bien. À partir de quoi, je me suis rendu compte que le latin que j'avais appris à l'école des chartes, en préparation à l'école des chartes, n'était pas le latin médiéval, j'aurais peut-être pu me rendre compte un petit peu avant. Je me suis rendu compte de mes extrêmes faiblesses en paléographie, ce qui allait briser ma carrière de médiéviste assez vite. Et puis, je suis remonté dans le temps, petit à petit, pour ce qui est de ma spécialité en termes de choix de thèse à l'école des chartes.
Quel a été votre sujet de thèse ?
Alors, mon sujet de thèse aurait pu être l'édition de la correspondance d'un ambassadeur espagnol, le duc d'Harcourt, l'ambassadeur français en Espagne pendant la guerre de succession d'Espagne. Avec Bruno Neveu comme responsable de thèse, et puis une opportunité simple s'est faite, et ça a été de travailler sur un sujet qui m'intéressait beaucoup, qui était l'histoire du cinéma et du théâtre, et mon sujet de thèse a donc été autour de la personnalité d'André Antoine, qui est, pour aller très vite, le fondateur de la notion de mise en scène en France. À partir de quoi j'étais de moins en moins médiéviste, évidemment, et je n'étais que très peu conservateur d'archives potentielles, d'autant plus que j'avais fait un stage à Grenoble, aux archives départementales de Grenoble, en fin de première année d'école des chartes, et, sous la direction d'Yves Soulenjas, décédé depuis, et non pas que le stage avec Yves Soulenjas ait été inintéressant, bien au contraire, mais je me suis dit que je n'avais pas d'appétence particulière pour les archives. Et à ce titre-là, c'est plus par défaut que les choses se sont faites, et c'est construite l'idée que je pourrais devenir conservateur de bibliothèque, par différence du reste. À partir de là, et dès la deuxième année, je pense que le choix à l'école des chartes, je pense que le choix était assez clair, et j'allais passer, j'allais devenir conservateur des bibliothèques. Quand j'étais en deuxième année, rappelons qu'on pensait qu'il y aurait une affectation directe après l'école des chartes. Or, il s'est trouvé que le décret du 9 janvier 92 est passé 9 jours après le début réel du stage de quatrième année d'école des chartes. Et à ce titre-là, j'avais déjà choisi mon orientation, qui était donc les bibliothèques. Mais cette orientation s'est trouvée dans une impasse juridique, dans la mesure où on ne savait pas comment affecter les élèves de l'école des chartes. Ils se trouvaient dans cette situation curieuse. Et c'est une personne, une personnalité à laquelle, au nom de mes collègues, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que l'on doit beaucoup, parce qu'il a quand même débroussaillé cette question, débrouillé cette question, et il a proposé qu'il y ait une sorte de concours réservé qui peut ou prou, avec des modalités un peu différentes, existe encore, et qui est celui qui est proposé aux élèves de l'école des chartes. Et donc c'est ce concours réservé qui a fait que les 15 élèves de l'école des chartes qui souhaitaient s'orienter vers les bibliothèques sont devenus élèves de l'ENSIB et à ce titre-là intégrés au DCBE, et qu'ensuite s'est trouvé à l'intérieur de l'ENSIB un jeu compliqué d'équivalence pour faire qu'il y ait un classement unique. Ce classement unique était sans doute la seule modalité pratique envisageable pour affecter les personnes. En même temps, il a créé aussi des distorsions assez grandes, puisque le contrôle continu à l'intérieur de l'ENSIB avait plutôt tendance à lisser les notes vers une valeur moyenne supérieure, alors que la valorisation de la thèse d'école des chartes dans le classement final faisait qu'il y avait un éclatement des notes extrêmement fort du côté des chartistes, et que d'un côté, ceux qui avaient suivi des enseignements complets des 18 mois d'ENSIB avaient des notes schématiquement entre 11 et 15, et ceux qui avaient suivi les enseignements de l'école des chartes avaient des notes entre 4 et 18.
Oui, ce qui changeait quand même l'échelle de notes. Et vous étiez donc arrivé après les autres conservateurs de l'ENSIB,
voilà,
donc au milieu de la formation.
Oui, au milieu, puisque nous sommes arrivés le 1er octobre 1992, c'est-à-dire 10 mois après que les... un an, puisque la scolarité commençait en octobre pour les élèves de l'ENSIB, donc les élèves de la première promotion de l'ENSIB sont rentrés en fait en octobre 91.
D'accord.
Et donc sont sortis, comme tout le monde, en avril 93. Les élèves de l'école des chartes ont donc fait six mois à l'ENSIB, et leur stage d'été, qui était prévu par les deux écoles, c'est-à-dire le grand stage de 3 mois, qui était prévu dans des conditions d'ailleurs assez similaires, stage dans une bibliothèque avec production d'un mémoire ou d'un rapport. Donc les deux modalités de formation pouvaient être harmonisées. Donc le stage qui s'est trouvé être un stage chartiste, entre grands guillemets, a été utilisé comme stage de l'ENSIB. Et à ce titre-là, il y a eu production d'un rapport, puisqu'à l'époque il y avait un rapport de stage qui n'était pas mémoire d'études. Donc c'est un rapport de stage, mémoire de stage. Et donc ce mémoire a donc été rendu.
Très bien. Et pouvez-vous nous en dire plus sur l'enseignement dispensé à l'ENSIB à cette époque ?
Alors, l'enseignement dispensé à l'ENSIB, pour quelqu'un qui avait suivi les enseignements de l'école des chartes, était, pour le dire très vite, un contre-pied complet et une énorme bouffée d'air. Évidemment, mon choix personnel de faire une thèse sur l'histoire contemporaine des spectacles n'avait que peu de rapport avec les enseignements ordinaires de l'école des chartes, et à ce titre-là je dois dire assez tranquillement que ces enseignements finalement pour ce qui me concernait, passer un petit peu à côté, et pour ce qui me concernait aussi, ressemble un petit peu à une erreur. J'avoue m'être ennuyé beaucoup à l'école des chartes, et pour le coup, les enseignements à l'ENSIB étaient dans la vraie vie. Et quand je dis dans la vraie vie, c'est que l'on parlait de choses qui allaient être celles qu'on allait rencontrer dans les mois, les semaines qui allaient suivre, puisque dès le 1er avril s'annonçait la prise de poste. Et donc, on nous parlait de gestion du personnel, de gestion budgétaire, de, bon, certes, aussi de l'histoire du livre, mais on n'était plus dispensé des cours, mais d'informatique documentaire, etc. Donc, c'était des enseignements qui étaient en prise relativement directe avec une réalité qui était celle de la première affectation.
D'accord, donc vous pensez que l'enseignement était adapté à la préparation, à la vie professionnelle?
Comme toujours, avec les limites d'une formation initiale, et toutes les formations initiales ont une limite. Moi, je crois beaucoup, et ce n'est pas qu'un slogan, on fait que la formation initiale doit permettre que toutes les évolutions possibles dans la carrière soient envisageables par la personne qui entre dans cette carrière. À partir de quoi que la personne ait eu des enseignements d'histoire du livre, de catalogage, de management, de gestion financière et de gestion de la qualité et de bibliographie, je trouve ça intéressant parce que ça ouvre quand même quelques possibilités.
Oui, oui, bien sûr, ça reste généraliste.
Ça reste généraliste. Alors évidemment, on est opérationnel dans rien, mais on voit à peu près tout. Et après tout, ça permet de se tirer d'une première situation éventuellement un peu compliquée.
Et justement, racontez-nous votre prise de poste et votre carrière ensuite.
24 ans et demi, bibliothèque municipale de Pau, directeur adjoint chargé de la lecture publique, première affectation.
Donc déjà un poste à responsabilité.
Oui, mais par un concours de circonstances. Un classement médiocre à la sortie de l'ENSIB, 55e sur 87, qui ne me permettait ni de choisir un de mes premiers vœux, ni d'être véritablement en danger. J'étais aux deux tiers, donc ça n'avait pas spécialement d'incidence. Une situation extrêmement compliquée à la bibliothèque municipale de Nîmes, qui était celle que je visais. Et du coup, la direction du livre et de la lecture n'avait pas souhaité nommer un jeune conservateur. Un collègue plus âgé, anciennement bibliothécaire adjoint à la bibliothèque municipale de Grenoble, souhaitait y retourner pour s'occuper des bibliothèques annexes de quartier. C'était mon deuxième vœu. Le troisième vœu se trouvait être la bibliothèque municipale de Pau, et j'y suis arrivé.
Ça faisait partie de vos vœux.
Ça faisait tout à fait partie de mes vœux. Je vous l'ai dit, classement médiocre aux deux tiers du classement, et arrivé sur mon troisième vœu, il y avait une justice en fait. Donc c'était assez normal. Ce poste-là a été un très bon premier poste, parce que c'était un poste d'observation dans une bibliothèque où il ne se passait pas grand-chose en termes de nouveautés, où les choses étaient très installées depuis très longtemps, et où les directeurs successifs s'étaient un petit peu épuisés à tenter de lutter contre le tout-puissant maire de Pau de l'époque, qui était André Labarrère, personnage et personnalité politique absolument hors du commun. Et ces directeurs successifs n'avaient pas véritablement réussi à imposer la création d'une nouvelle bibliothèque, ce qui aurait été tout à fait salutaire, et le réseau de bibliothèques vivotait. Alors, chargé de la lecture publique, ça supposait d'abord de s'occuper du réseau des annexes, et ça supposait de s'occuper aussi de la bibliothèque d'études à l'intérieur de la ville de Pau. Il y avait quatre annexes et une bibliothèque centrale. Voilà. Donc ça a été mon premier poste, qui est un poste d'observation tout à fait intéressant, et en quelque sorte, et je le rappelle, à 24 ans et demi, beaucoup trop jeune, une sorte de grand stage, d'appendice d'un grand stage, si vous voulez. Et à ce titre-là, c'était une expérience tout à fait intéressante. Alors, la suite, puisque vous me demandez quelle a été la suite. s'est trouvée être à la direction du livre et de la lecture. Je souhaitais, après quelques années, quitter la bibliothèque municipale de Pau, c'était évident. J'ai posé candidature, l'espagnol, à la direction de la bibliothèque de la Casa de Velázquez à Madrid. Je n'ai pas été retenu, les trois derniers, mais sur une vingtaine de candidats, mais je n'ai pas été retenu. Et après quoi, j'ai souhaité travailler dans une administration centrale ou déconcentrée du ministère de la Culture, en DRAC ou à l'administration centrale. J'ai candidaté concomitamment sur deux postes de conseiller pour le livre, en région PACA et en région Poitou-Charentes, et j'ai aussi candidaté à un poste à la direction du livre et de la lecture. Et ma candidature a été retenue. Je me suis occupé successivement des questions de formation, c'était mon premier poste, puis j'ai été le responsable du bureau des affaires générales de la direction du livre et de la lecture, avec une gestion financière, une gestion du personnel, alors gestion financière et une gestion de la formation. Gestion financière, c'était celle de la délégation, essentiellement de la délégation des crédits pour la Bibliothèque nationale de France en pleine construction. C'était celle de la reconstruction de la BPI au moment de sa rénovation. C'était la mise en place de la dotation générale de décentralisation.
De gros chantiers.
C'était pour lequel je voyais passer les crédits. Je n'avais pas d'action réelle. Je ne faisais que voir passer les crédits. Et la gestion du subventionnement de l'État. La direction du livre et de la lecture avait aussi la charge de la gestion des à peu près 2000 personnels de bibliothèque qui se trouvaient placés sous l'autorité de la direction du livre et de la lecture, à un moment où la BNF et la BPI n'avaient pas encore de gestion directe de ces personnels. Et puis la formation, c'était donc l'exercice de la tutelle sur l'Institut de formation des bibliothécaires, d'abord. Bertrand Calange était le directeur. Et l'exercice, non pas de la tutelle cette fois-ci, mais de l'accompagnement au titre du ministère de la Culture, de l'ENSIB et des centres régionaux de formation en carrière des bibliothèques. Bref, cette expérience pour moi est absolument fondatrice de ce que j'ai pu faire, parce que j'ai vu passer des quantités de choses et j'ai été en contact avec des personnalités, là encore hors du commun. J'ai cité Bertrand Calange, je peux citer Dominique Arrault, aujourd'hui doyen de l'inspection générale des bibliothèques, je dois citer absolument Jean-Sébastien Dupuis, qui était, même si on peut ne pas avoir les mêmes options que celles qu'il prenait, un immense personnage, un immense serviteur de l'État. Et à ce titre-là, ces personnalités marquantes faisaient que le jeune fonctionnaire que j'étais se trouvait un petit peu ébahi d'être dans cette situation-là, d'être dans une situation de relative responsabilité, en même temps dans un contexte qui était extrêmement intéressant, extrêmement divers. En plus, il s'est trouvé que pendant la période 96-2000, où j'étais à la direction du livre et de la lecture, il y a eu un changement de majorité politique. Donc j'ai connu trois ministres, Jacques Toubon, Philippe Douste-Blazy et Catherine Trottmann. Jacques Toubon et Catherine Trottmann, toutes oppositions politiques mises à part, ayant un petit peu le même type de manière d'approcher les questions, c'est-à-dire une approche discrète, mais en même temps réglementatrice, avec un très grand nombre de textes qui sont parus sous leur ministère. Donc, participation, quelque chose qui était un mouvement qui était intéressant. Après quoi, sans être trop long, j'ai rejoint la bibliothèque municipale de Lyon pour diriger la médiathèque de Vez qui était en train d'être construite. J'y suis resté 2 ans. Jusqu'au moment de la mise en route de la médiathèque de Vez, et j'ai quitté la bibliothèque municipale de Lyon après 1 an exactement de direction de cette bibliothèque, une fois son ouverture prononcée. J'ai rejoint l'Institut national de recherche pédagogique pour effectuer le transfert de la bibliothèque de Paris à Lyon, et j'ai été chargé de mission auprès de la directrice de l'INRP pour toutes les questions de ressources documentaires et pour les grands marchés de numérisation. J'ai eu l'occasion et la chance de travailler dans un établissement qui se trouvait être extrêmement riche et qui avait un tel retard dans le traitement de ces documents au Musée national de l'éducation à Rouen et à Lyon, à la bibliothèque de l'INRP, que les moyens qui étaient mis permettaient de moderniser véritablement et le musée et la bibliothèque. Vous n'avez pas de responsabilité hiérarchique sur le musée, mais par contre, j'avais cette responsabilité de la bibliothèque et cette mission d'encadrement de tous les processus finalement documentaires à l'intérieur de l'INRP, avec un poste de directeur de la bibliothèque et chargé de mission pour la politique documentaire auprès d'Anne-Marie Perrin-Lafac peu de temps, et surtout auprès d'Emmanuel Fraisse, dont l'action à l'INRP aura été peut-être anachronique parce qu'il était arrivé, personnalité brillantissime, et finalement à un moment qui n'était pas le bon pour l'INRP. Si l'INRP a pu avoir une action scientifique pendant quelques années à Lyon, c'est entièrement à lui que les choses sont dues. Et enfin, donc, dernière expérience, puis je vais conclure. Poste de directeur adjoint grâce à Catherine Gaillard qui me l'a proposé. Catherine Gaillard qui est aujourd'hui en retraite, qui était directrice de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. Et maintenant, je suis resté directeur adjoint, enfin adjoint directeur, je fais une distinction. Adjoint directeur pendant 8 mois. Puis chargé de l'intérim au moment où Catherine Gaillard a pris un poste à l'inspection générale des bibliothèques, un intérim qui a duré 7 mois, et ensuite candidat, puis lauréat au moment de la consultation pour devenir directeur de la bibliothèque de la Sorbonne, que je dirige maintenant depuis 3 ans et 1 mois.
Voilà. Très bien, merci pour cette description de votre riche parcours. Donc je vais revenir à l'ENSIB en vous demandant si, selon vous, il existe un esprit ENSIB, si vous avez pu constituer un réseau de connaissances lors de votre scolarité, et si vous avez pu avoir recours à ce réseau par la suite.
Alors, est-ce qu'il existe l'esprit ENSIB? Je n'en sais rien. Je ne suis pas totalement convaincu. Je ne suis pas totalement convaincu d'ailleurs que je sois la meilleure personne pour en parler, puisque je n'ai passé que 6 mois à l'ENSIB. Au demeurant...
Vous pouvez peut-être nous parler du réseau chartiste, sinon.
Au demeurant, existe-t-il un réseau chartiste? Je n'en suis pas convaincu, pour des raisons équivalentes, etc., etc. Concrètement, aujourd'hui, avec qui est-ce que je reste en contact? J'ai des contacts professionnels avec un certain nombre de collègues que je vois de temps en temps et que je salue amicalement. Nicolas Gallo à Brest, Sandrine Maloto à Toulouse, que je croise, qui sont des camarades de promotion. Puis il y a un réseau d'amis aussi, Nadine Guéroux, Vincent Chapuis, Régis Rech, qui est aussi un ancien collègue de l'école des chartes, directeur de la bibliothèque municipale de Tours, ou Patrick Latour, directeur adjoint de la bibliothèque Mazarine, sont restés des amis. Bon, il se trouve que mon épouse est aussi l'ancienne élève de l'ENSIP et pas de l'école des chartes, et que nous sommes connus puis oubliés à ce moment-là, puis retrouvés après. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y aura pas de... Enfin, il n'y a pas, à mon sens, d'esprit qui plane sur l'ENSIB, et je ne crois ni au réseau chartiste, ni au réseau ENSIB, qui, à mon avis, relève du fantasme de l'autre. C'est-à-dire qu'on dit toujours que... Enfin, les anciens élèves de l'ENSIB qui ne sont pas passés par l'école des chartes croient qu'il y a un réseau chartiste, et les anciens élèves de l'école des chartes qui sont passés par l'ENSIB, en boudant étant l'ENSIB, croient qu'il y a un réseau ENSIB, et que les deux réseaux s'opposent l'un et l'autre, et que les deux réseaux veulent du mal à l'autre. Ça me paraît une construction absolument absurde.
D'accord, tant mieux, j'ai envie de dire. Et êtes-vous revenu à l'ENSIB depuis la fin de votre scolarité? Si oui, dans quel but?
Quelquefois. Des stages quand j'étais à la bibliothèque municipale de Pau. Mais est-ce fonction, j'allais dire, quand j'étais à la direction du livre et de la lecture, puisque j'avais donc des questions de formation dans mon escarcelle, si je puis dire, pour y donner des cours, pour y soutenir, enfin pour y, pardon, encadrer des mémoires, pour diriger des stages assez fréquemment depuis que j'étais à la Bibliothèque municipale de Lyon, c'est-à-dire depuis 2000 et jusqu'à aujourd'hui. Régulièrement, une fois ou deux dans l'année, je viens à l'ENSIB pour donner un cours, une conférence ou des choses diverses. J'y reviens aussi pour les soutenances de mémoire, comme aujourd'hui. J'y reviens aussi parce que j'ai pu diriger un mémoire. Enfin, oui, le contact, le fil avec l'ENSIB est très fort, le fil avec l'École des Chartes est nul. Ah,
c'est révélateur. Et que pensez-vous de l'évolution de la formation à l'ENSIB ?
Alors, l'évolution de la formation à l'ENSIB. Là encore, je ne suis pas persuadé d'être la meilleure personne pour en parler parce que je ne dis pas que je ne connais pas les programmes de l'ENSIB. Il me semble qu'à partir d'une recette de base qui est toujours la même, qui est en gros essayer de donner toutes les possibilités d'exercer ses fonctions, le temps se déplace, le curseur se déplace et donc le dosage se déplace. C'est-à-dire qu'effectivement, il a pu y avoir un mouvement plus technologique et informatique. À un moment, il y a eu une période qui est peut-être une mode aussi, qui était autour de la sociologie des organisations et le management, pour aller vite. C'était celle que j'ai connue, finalement. La partie technique étant plutôt les années précédentes. Mais il me semble au total que la formation est relativement adaptée et qu'elle résiste assez bien à ce que j'appelle le test de l'agenda. Alors, le test de l'agenda, c'est quelque chose de tout simple. J'ouvre mon agenda à une semaine qui est une semaine X, et je regarde ce qui se passe. Et la question est de savoir en quoi la formation ENSIB peut préparer à supporter une semaine comme ça. Et finalement, on se rend compte que dans une semaine ordinaire d'un conservateur de bibliothèque, et même d'un directeur de bibliothèque, je dis « et même » parce que les fonctions sont parfois un peu différentes, surtout quand les établissements sont grands, je trouve que la formation de l'ENSIB donne une grande série de possibilités. Alors, peut-être que sa faiblesse était et peut-être reste encore autour des questions administratives auxquelles on n'est peut-être pas complètement assez préparé quand on arrive dans un poste. Passer un marché, gérer du personnel, gérer un budget, construire un budget. Ce sont des choses qui sont peut-être encore un petit peu
à devenir. Parce que ça reste très théorique à l'ENSIB, mais on n'a pas l'occasion de le mettre en pratique.
Voilà. Et c'est un peu naturel aussi. Et comment rendre ces choses-là théoriques ? C'est pas très facile. Bon, voilà.
D'accord. Donc je vais vous poser une question peut-être un peu plus personnelle sur votre métier et la façon dont vous vivez ce métier. Et j'aimerais vous demander si aujourd'hui vous referiez le même choix de carrière en prenant un petit peu de distance avec ces années écoulées en tant que conservateur de bibliothèque.
J'enseignerai l'espagnol ou l'histoire du théâtre. Non, c'est une boutade. Pourquoi pas, d'ailleurs. Et je vous répondrai aussi pourquoi pas par rapport au choix de carrière. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que le corps des conservateurs ou des conservateurs généraux des bibliothèques peuvent être pris uniquement comme un support. C'est un support à exercer des fonctions qui peuvent être extraordinairement diverses. Et ça me paraît être sa principale force. Contrairement à une image que peuvent avoir d'autres personnes, très souvent dans la conversation courante, avec des présidents d'université, avec des secrétaires généraux, ils ont une vision assez restrictive du métier de conservateur de bibliothèque, qui cantonne à la gestion des livres, pour aller vite, voire à la gestion des documents, ou des accès documentaires quand ils sont plus au fait des choses. Premièrement, ils ne voient pas nécessairement le public qui est à côté. Et là, il y a un premier hiatus. Et cette représentation que l'on peut avoir de l'extérieur du métier de conservateur et dont je ne peux pas penser qu'elle n'est pas totalement présente dans, quand on passe le concours de l'ENSIB, en réalité recèle une, me semble-t-il, une réalité qui est bien plus complexe que ça, puisque les conditions d'exercice, les moyens d'exercer le métier sont extrêmement diverses. Qu'y a-t-il de commun entre un responsable, je prends des exemples volontairement caricaturaux, responsable de, d'une bibliothèque de 150 personnes et un conservateur au département des monnaies, médailles et antiques à la Bibliothèque nationale de France? Qu'y a-t-il de commun entre diriger un réseau d'annexes de lecture publique et diriger une bibliothèque de recherche en mathématiques appliquées? Bon, on peut croiser les exemples dans tous les sens. C'est effectivement.
Alors, je répugne. Cette diversité voilà. Qui est intéressante, justement, dans le métier.
Je répugne toujours à employer le mot de métier, qui me gêne. Qui me gêne parce que pour qu'il y ait véritablement un métier, c'est ce qui peut m'opposer avec d'autres collègues, la directrice de l'ENSIB en particulier, toute amitié pour Anne-Marie Bertrand, c'est que je ne suis pas certain qu'il y ait véritablement un métier. Je pense plutôt qu'il y a des conditions d'exercice extrêmement diverses qui forment le fait que on peut aboutir à quelque chose qui est un peu paradoxal, c'est qu'un conservateur des bibliothèques, du moins s'il est dans une position de direction, peut être plutôt un administrateur avec une couleur bibliothèque. Mais en même temps, je dois reconnaître que quelqu'un qui est chargé de collection ou d'acquisition dans une bibliothèque, la bibliothèque de la Sorbonne, la bibliothèque nationale de France, lui aura une vision tout à fait autre, qui est celle d'un métier extrêmement, d'un métier, là pour le coup, très particulier et circonscrit, alors que je peux avoir une appréciation plus généraliste. Mais en même temps, j'ai aussi l'impression que ça peut n'être qu'un sentiment personnel. Voilà. Donc le mot de métier me gêne toujours un petit peu. Je préfère. Je ne sais pas d'ailleurs par quoi le remplacer, mais il me semble qu'il est un petit peu réducteur, ou alors il faudrait le définir avec une acception extrêmement large.
Mm-hmm. Un métier a vraiment plusieurs facettes.
Oui.
Disons une identité commune.
Je préférerais ça.
Mais qui se traduit par différentes fonctions.
Oui, un contexte d'abord, mm-hmm. et ensuite effectivement une série de facettes qui peuvent finir par constituer. Allez, j'accepte le mot de métier.
Et avez-vous eu une préférence pour une fonction particulière au cours de votre carrière? Est-ce qu'il y a un poste qui vous a plus intéressé, qui vous a plus épanoui?
La question est compliquée, je vous l'ai dit, pour moi l'expérience qui est l'expérience fondatrice, et je le mets toujours en avant, c'est le ministère de la Culture, parce que c'est celui où j'ai peut-être perçu, alors que mon premier poste était extrêmement classique, pour le coup, en direction adjointe certes d'un établissement, mais surtout gestion au quotidien d'une équipe, gestion d'une série de fonctions, gestion d'acquisition, gestion de contrôle du catalogage, enfin vous voyez, c'est vraiment, alors là pour le coup, le métier de base. L'expérience véritablement fondatrice, c'est celle du ministère de la Culture. Par contre, il s'est trouvé que à la médiathèque de Vaise, puis à l'INRP, puis la bibliothèque de la Sorbonne, et je suis depuis ce moment-là une sorte de métaphore filée autour de la construction de l'équipement, autour de la rénovation d'équipement, autour du déménagement, aménagement de nouvelles structures dans de nouveaux endroits, autour de l'installation de bibliothèques et autour de la modernisation de ces bibliothèques. Donc cette, en quelque sorte, cette métaphore filée sur ces questions-là depuis une douzaine d'années fait que j'ai l'impression d'avoir toujours vécu dans ces 12 dernières années professionnelles dans une ambiance de projet d'établissement ou de d'éléments finalement qui structurent ou qui restructurent des éléments existants ou qui les font se modifier. Et si on télescope finalement, si on se dit qu'il y a dans mon parcours peut-être trois parties, une sorte, comme je l'ai dit, de grand stage, une sorte d'expérience fondatrice et ensuite cette expérience autour des de bibliothèques nouvelles à moderniser ou à reprendre ou à revoir ou qui parle la nécessité des choses liées à une reconstruction doivent être reprises, il y a là un parcours. Alors, je ne réponds pas directement à votre question en disant est-ce qu'il y a une expérience fondatrice, mais si vous me répondez, ou une expérience importante que je mettrai à l'avant, mais s'il y a un élément qui me paraît tout à fait important, c'est le fait que la diversité des fonctions que l'on peut occuper en tant que conservateur des bibliothèques permet aussi de toujours, et c'est ce qui est un petit peu stimulant, toujours se mettre en danger et toujours prendre des risques. Il ne faut pas hésiter à prendre un poste qui est un poste ambitieux ou impossible. Pas par ambition personnelle, l'ambition personnelle n'a pas d'intérêt. Mais par contre, par volonté de faire progresser quelque chose, ou c'est extrêmement prétentieux de dire ça, d'avoir l'impression de faire progresser quelque chose, ou d'avoir l'impression d'accompagner une progression, ou d'accompagner une modernisation. Alors, c'est parfois des choses très petites, c'est parfois des choses plus grandes, ou c'est parfois l'agrégation de petites choses qui finissent par construire un élément. Bref. Ça n'est à mon sens véritablement possible que si on a vraiment envie de se lancer même pour soi des sortes de défis personnels et si on a aussi peut-être, et c'est peut-être en ça que les deux premières expériences que j'ai pu avoir sont intéressantes et m'aident beaucoup quotidiennement aujourd'hui, c'est qu'elles ont été en fait structurantes, l'une au plan de bibliothèque économique pour le peu que j'en sais, et je n'en sais pas grand chose de la bibliothèque économique, je l'avoue bien humblement, et au plan administratif, là, c'est des choses qui me sont plus familières aujourd'hui, et pour le coup, c'est entre ces deux mouvements de balancier que les choses se passent.
Et quel projet avez-vous pour l'avenir ?
J'en sais rien.
Vous n'y pensez pas ?
Je ne sais rien, j'ai pas de plan de carrière, j'ai pas de...
Quelque chose que vous aimeriez faire et que vous n'avez pas eu l'occasion de faire.
Je n'en sais strictement rien. Il y a des quantités de possibilités. Il y a des quantités de possibilités. Revenir à l'administration centrale du ministère. Tiens, pourquoi pas ? D'un ministère, l'enseignement supérieur ou la culture. C'est une possibilité, si le contexte s'y prête, si les projets qui y sont menés sont intéressants. Continuer à diriger une bibliothèque, ou en diriger une autre, qui aurait ce même type de projet de reconstruction ou de rénovation, ou dans laquelle il faudrait reprendre un certain nombre d'éléments, ce qui est, entre très grands guillemets, spécialité actuelle. À l'extrême inverse, et pourquoi pas, prendre un poste tout à fait différent, qui pourrait être un poste sur les collections, sur un sujet qui m'est familier ou qui peut m'intéresser. Comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit trois fois, donc comme je l'ai déjà dit...
L'espagnol,
l'histoire du théâtre. Voilà, un petit peu ce qui pourrait... Vous me posez les questions aujourd'hui, 26 janvier 2012, faire une réponse à ce que je peux vous dire. Mais franchement, pas d'idée et pas de plan. Et l'opportunité fera que ça se passera d'une manière ou d'une autre, et ça n'est pas très grave au total. Et une nouvelle fois, il n'y a pas, même après avoir dirigé une bibliothèque de la Sorbonne, je ne... Je ne vois pas en quoi cela serait dévalorisant de prendre un poste de responsable de collection dans une bibliothèque, quelle qu'elle soit. Étant quand même entendu une chose, c'est qu'il y a un élément qui me paraît absolument essentiel, et je dirais presque au plan moral, c'est que, étant conservateur général, il ne faut jamais perdre de vue que le poste de conservateur général situe les conservateurs généraux au même niveau de fonction que celui de l'administrateur civil hors classe, ou celui, pour employer un exemple qui va peut-être paraître choquant, d'un général des étoiles. Et à ce titre-là, il ne faut jamais perdre de vue que la nomination s'est sortie d'une obligation, à mon sens, qui est celle d'occuper un poste qui soit en rapport avec ce titre. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer d'occuper un poste sur le fond, sur un fond documentaire, dans une bibliothèque qui s'occuperait d'art du spectacle, ou qui s'occuperait de langue, mais en tout cas sans dévaloriser ce grade et ce titre, qui pour moi, alors que je suis peu attaché au titre, là pour le coup, à l'inverse, me paraît être la première des honnêtetés.
D'accord. Et est-ce que la recherche vous intéresse ou est-ce que vous pensez que ça fait partie justement aussi de ces fonctions?
La recherche m'intéresse. Bon, j'ai soutenu une thèse en 2002 auprès de l'université de Franche-Comté. Et peut-être, dans les évolutions possibles de carrière, peut-être y a-t-il une possibilité de passer une habilitation dirigée des recherches. Pourquoi pas dans mon domaine, qui est dans l'histoire du théâtre. Là encore, sans aucune ambition et sans aucune volonté de devenir professeur de l'université, plus pour le jeu intellectuel et pour l'exercice intellectuel que ça représente qu'autre chose. Activité de recherche que je continue à avoir, alors de manière un petit peu diffuse, parce que je n'arrive pas forcément à m'astreindre à la discipline de continuer à chercher, mais je suis quand même en contact avec plusieurs réseaux de chercheurs autour des sujets qui me sont familiers et je continue à avoir une activité relative qui consiste à produire un lien avec les réseaux d'enseignants que je peux avoir, un livre à peu près tous les 5 ans et en gros un article par an et en gros une communication dans un colloque par an à peu près.
Tout à fait honorable.
mais je fais dire que je fais de la recherche comme d'autres font de la pêche.
Nous arrivons à la fin de l'entretien. Donc, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter, une anecdote à nous faire partager? Je vous laisse la parole.
Alors une anecdote certainement pas, parce qu'il y aurait un 18 ans, 19 ans de carrière, il y en aurait 200 ou aucune. Un élément peut-être à faire partager ou un élément peut-être d'orientation, il me semble que l'essentiel dans une carrière qui pour moi est un peu curieux de le dire, mais est à mi-parcours, c'est de toujours tenter de prendre des postes qui ont un enjeu. Toujours tenter de prendre des postes qui sont intéressants et dans lesquels on prend plaisir ou intérêt à travailler, même si c'est très dur. Même si ça peut être très dur. Et même si il peut y avoir des moments de découragement, etc. Donc, ne jamais, jamais hésiter à prendre des risques. Et ça c'est vraiment ce que je dirais comme ça, de manière un peu rapide, un jeune conservateur. C'est un exercice assez curieux pour moi de faire ça.
Voilà. Très bien, je vous remercie de nous avoir parlé librement. C'était très intéressant, merci beaucoup.
De rien. Au revoir.